la résidence radiophonique à Langogne de 48 FM et Radio Zema. Un projet de l'Assemblée régionale des radios associatives avec le soutien de la région Occitanie.
Donc ainsi, c'était un morceau d'Émilie Marche qui était l'une des artistes accueillies sur le festivalier il y a 2 ans, si on ne dit pas de bêtises. 48 FM en direct donc du lac de Naussac pour ce deuxième plateau radio spécial festivalier. Ce lac qui fait parler de lui, qui a fait parler de lui d'antan quand il a été construit à l'orée des années 80, puisqu'il a nécessité rien de moins que la destruction d'une vallée tout entière. Et puis ce lac, il fait encore aujourd'hui beaucoup parler de lui à l'heure où l'on a pris conscience que la ressource en eau est limitée. C'est qu'il joue un rôle essentiel aujourd'hui, ce lac dont dépend tout un bassin en amont de la Lozère. Et pour en parler, nous recevons Benoît Rossignol, et en aval aussi, merci Guillaume, et surtout en aval. Pour en parler, nous recevons Benoît Rossignol, directeur en charge de la ressource en eau à l'établissement public Loire. Bonjour Monsieur Rossignol.
Bonjour, merci de vous inviter à participer.
Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Établissement public Loire, qui on le précise, est gestionnaire de ce barrage de Naussac, propriétaire même, c'est bien ça.
Oui, tout à fait. L'établissement est propriétaire et gestionnaire de ce barrage à Naussac et des installations qui sont autour de l'aménagement de Naussac.
Voilà, avec également, on le précise, un autre barrage, celui du Villerest, qui se situe dans la Loire. Donc le barrage de Naussac, c'est une infrastructure, une retenue d'eau pour être tout à fait précise, c'est pas un barrage hydroélectrique. Et donc je le disais, plusieurs communes en dépendent de ce barrage, une 60aine il me semble. Est-ce que vous pourriez nous expliquer son fonctionnement, son rôle ?
Alors le rôle principal de ce barrage, c'est de stocker de l'eau pour pouvoir, quand il y en a suffisamment, en abondance, pour pouvoir ensuite soutenir les débits de l'Allier et de la Loire au moment où les débits dans ces deux cours d'eau sont les plus faibles. Donc c'est souvent autour de la période estivale. Donc on appelle ça les périodes de basse eau ou les périodes d'étiage. Et dans la mesure où on soutient, on rajoute de l'eau dans ces cours d'eau, on appelle ça un soutien d'étiage. Voilà, et donc c'est à partir du barrage de Naussac pour l'Allier et puis du barrage de Villeray pour la Loire. Et donc ce soutien d'étiage depuis le barrage de Naussac, il est utile également pour la Loire après la confluence entre l'Allier et la Loire, près de Nevers, avec un effet qui se fait ressentir jusqu'à l'océan, du côté de Nantes.
Voilà, jusqu'à presque Saint-Nazaire même, non, je crois.
Oui, tout à fait, c'est ça. On le mesure plus difficilement, puisqu'après il y a l'influence de l'eau, des marées, mais tout à fait, l'influence est jusqu'à l'océan.
S'il n'avait pas été créé ce lac dans les années 80, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui certains territoires seraient totalement dépourvus d'eau ?
Alors, au moins par moment, parce que la ressource en eau, le niveau d'eau dans les cours d'eau est assez variable suivant les périodes et suivant les saisons, d'une année sur l'autre. Mais il y a des jours au moins, ou parfois même des semaines ces dernières années, où il n'y a eu que très très peu d'eau, notamment dans le juste à l'aval de Naussac, dans les cours, dans l'Allier lui-même, du côté de la Haute-Loire, et puis ensuite du Puy-de-Dôme. Il y a des zones où il y a eu quasiment plus d'eau certains jours dans l'Allier.
Donc c'est pourquoi son niveau de remplissage aujourd'hui est au cœur de toutes les attentions. Ces derniers temps, ce lac de Naussac, il a battu des records et aux deux extrêmes, à la fois en termes de remplissage très très bas et de remplissage bien bien rempli comme aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. En 2023, il y a eu des records par le bas. La retenue était très peu remplie. Pendant plusieurs semaines et même mois d'affilée, on était avec les niveaux les plus bas en 40 ans de fonctionnement de cet ouvrage, pour aboutir en fin de période de soutien des niveaux d'eau au mois d'octobre 2023 au niveau le plus bas en 40 ans. Donc c'était à peu près une vingtaine de pourcents de remplissage du barrage. C'est un record par le bas qu'on a essayé d'éviter tout le cours de la période d'étiage 2023. Tout avait été fait pour économiser l'eau, pour essayer de limiter les objectifs de soutien des niveaux dans l'Allier et de la Loire. Et on est arrivé quand même à ce niveau-là sans qu'on soit arrivé quand même au minimum, c'est-à-dire au zéro dans le barrage. Et ensuite, il y a eu un autre record, c'était le remplissage pendant l'hiver 2023-2024, où finalement Il a été très très humide cet hiver-là, le printemps notamment, et il a permis de reconstituer un stock à une vitesse tout à fait exceptionnelle. En quelques mois, on a pu arriver au maximum de remplissage du barrage qui était plein au mois de juin et début juillet, qui est encore quasiment plein à 97% de remplissage actuellement.
Voilà, et ça faisait presque 3 ans que ce niveau rempli n'était plus arrivé. Ce lac de Naussac, il a une capacité de remplissage de 185 millions de mètres cubes. C'est le plus gros barrage de Lozère. Et comparé au niveau national, il est aussi très conséquent, ce barrage.
Oui, oui, ça fait partie des grands barrages.
Qu'est-ce que ça représente,
voilà, si on regarde 185... sur une carte... C'est difficile de se représenter, je trouve que quand on indique un petit peu la taille de la retenue, hein, qui fait à peu près de l'ordre de 1000 hectares quand le lac est plein, voilà, ça donne un petit peu des dimensions. 185 millions de mètres cubes, on a du mal à se représenter soi-même. Mmh. Hein. 185 milliards de bouteilles de 1 litre d'eau, je vois pas comment représenter ça.
Ça
on utilise un nombre de piscines olympiques, mais ça fait beaucoup de piscines olympiques aussi.
En tous les cas, c'est pour ça qu'il est notamment difficile à remplir entièrement, hein, ce lac de Naussac, même si aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est le cas avec les fortes pluies du printemps dernier. Mais ça, c'est quelque chose qui reste imprévisible, que vous ne pouvez pas anticiper, ces conditions météo.
Oui, voilà, à la fois pour la période de remplissage et à la fois pour la période où on déstocke, où on soutient les débits de l'Allier, on ne peut pas anticiper la météo. Il y a une grande variabilité naturelle de cette météo. Dans des périodes comme actuellement où il peut y avoir, on est l'été, et bien il peut y avoir des orages, il peut y avoir des pluies, et souvent, même 2-3 jours à l'avance, on ne peut pas les anticiper. Et ensuite, quand on sait qu'il va y avoir des orages, on ne sait pas s'ils vont tomber de tel côté ou de tel côté de la montagne et couler dans... et provoquer des pluies ou pas. Donc, très difficile d'anticiper. Donc, les règles de gestion du barrage sont faites pour qu'il soit géré sur plusieurs années. Imaginez un remplissage et une vidange sur plusieurs années et tenir en cas d'année sèche. C'est ce qui a pu se faire depuis 3 ans avec des conditions particulières, avec à la fois des hivers secs ne permettant pas le remplissage du barrage et des étés secs nécessitant de déstocker le stock existant.
Parce qu'il se remplit qu'avec l'eau de pluie.
Oui, il faut qu'il pleuve pour qu'il se remplisse. Donc cette eau de pluie, elle ensuite rentre de 3 manières dans la retenue, soit naturellement par le petit bassin versant de Naussac qui s'écoule dans la retenue autour du Donoso, soit par dérivation de la rivière du Chaperoux. Mais il faut qu'il ait plu sur le bassin du Chaperoux. Soit aussi, on peut compléter le remplissage de la retenue par pompage dans l'Allier, mais il faut qu'il ait plu pour qu'il y ait de l'eau dans l'Allier auparavant. Ouais, donc de toute façon, il y a besoin de précipitations, de pluie, pour pouvoir remplir l'ouvrage.
Donc cette imprévisibilité météorologique, elle se conjugue aujourd'hui à des phénomènes météorologiques extrêmes dus au dérèglement climatique. Ça amplifie du coup, c'est difficile d'anticiper. Et ça entraîne de votre côté des adaptations nécessaires dans votre gestion de ce barrage. Donc vous l'avez évoqué en 2022, une année de sécheresse, où ça a été une année inédite pour vous. Vous avez dû prendre des mesures pareillement inédites.
Oui, donc en 2022 puis 2023, parmi les mesures qu'il y a eu, ça a été de réduire les niveaux de soutien pour l'aval de Naussac, donc sur l'Allier. Hein, on a des stations de référence auxquelles on essaie de maintenir un certain niveau de débit de l'Allier. Et ces niveaux ont été réduits progressivement pour tenir compte de la diminution du stock dans la retenue de Naussac. Donc ça, c'était inédit. Ce qui était encore plus inédit, c'est en 2023, quand on a atteint des niveaux de diminution de ces objectifs de soutien d'étiage qui étaient inédits.
Le fait qu'il soit à ce jour quasiment plein ne doit pas pour autant être pris pour argent comptant, hein, puisque avec ce réchauffement climatique, synonyme aussi de canicule, ça fait que l'eau s'évapore aussi. On peut perdre comme ça également du niveau d'eau.
Oui, donc l'eau s'évapore et puis l'eau reste, la ressource reste limitée dans la retenue de Naussac. On s'est rendu compte, on a bien pris conscience de ces dernières années de l'intérêt d'avoir cette ressource qui est gérée sur plusieurs années et de la nécessité aussi de la gérer sur plusieurs années en lien avec la ressource qui est présente dans la retenue de Villeray. On ne peut pas reconstituer le stock si facilement que ça. Il y a des années où on n'y arrive pas. Il y a des années sèches qui se succèdent. Et donc il faut pouvoir anticiper sur ces aspects-là. Cette année, la situation est beaucoup plus favorable que les années précédentes puisque le stock a été reconstitué, puisque la retenue est pleine. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut changer complètement par rapport au discours de l'année dernière en disant la ressource est limitée. La ressource reste limitée et chacun doit voir de quelle manière en limiter ses usages également, cette ressource fragile.
Voilà, en limiter ses usages. Est-ce qu'on peut quand même, donc vous l'avez dit, c'est une gestion sur plusieurs années, là on peut estimer à combien de temps ce soutien d'étiage est assuré au vu de ce
Alors,
remplissage à
avec
plein?
le remplissage actuel, on n'aura pas de difficulté pour le soutien d'étiage, pour soutenir les villes alliées en 2024. La situation en 2025, c'est encore un peu difficile de l'anticiper, puisque ça dépendra de la fin du soutien d'étiage 2024 déjà, et puis ensuite du remplissage éventuel entre 2024 et 2025. Mais la situation pour 2024 au moins est
Assuré.
favorable.
Dernière petite question, Benoît Rossignol. Est-ce qu'on peut le visiter, ce barrage de Naussac?
Alors, ce barrage, on peut se rendre sur place, on peut le voir. Par contre, ce n'est pas un barrage dans lequel on peut entrer. Contrairement à l'autre barrage que nous gérons, qui est le barrage Villeray, qui a des galeries, on peut rentrer dans les entrailles du barrage. Le barrage de Naussac, ce n'est pas possible. Donc, en fait, nous recevons de temps en temps des visiteurs dans le cadre de visites un petit peu organisées, qui permettent d'aller voir l'usine de pompage-turbinage de Naussac, de voir le site, mais le barrage, on ne peut pas rentrer dedans. Voilà.
Voilà, donc on peut juste
Par
passer
contre,
devant.
ce que nous avons produit et qui peut être consulté, notamment sur le site internet de l'établissement obligatoire ou, je crois, l'office du tourisme de Langogne, c'est une visite virtuelle de l'ouvrage qui peut être vue en ligne, en libre accès.
Bon, et ben voilà, on renvoie donc nos auditeurs, s'ils sont curieux de voir comment ça se passe à l'intérieur de ce barrage, de se rendre donc sur le site, vous l'avez dit, de l'office de tourisme de Langogne qui a mis un lien, c'est ça, hein?
Voilà, ou sur
Ouais.
le site
Ou
de
sur votre
l'établissement
propre site.
www.eptb-loire.fr.
Et ben voilà qui est dit. Benoît Rossignol, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de nous répondre. Donc je le rappelle, vous êtes directeur en charge de la ressource en eau à l'établissement public Loire, établissement qui a la gestion et qui est propriétaire du barrage de Naussac où on se trouve actuellement. Merci à vous.
Merci également.
On enchaîne sans plus tarder autour toujours de ce barrage de Naussac, dit aussi lac de Naussac. C'est donc un lac artificiel résultante d'une intervention humaine. Il faut donc remonter au début des années 80 quand sa construction est définitivement actée par les autorités et actant par là même l'engloutissement de toute une vallée lozérienne, la vallée de Naussac. Un épisode qui a laissé des traces encore vives dans les mémoires de ses anciens habitants. Mémoire vive qui a fait l'objet dernièrement d'un travail de collecte. Il a été réalisé par une ethnologue, c'était en 2022. Elle s'appelle Armelle Faure et elle a collaboré avec les archives de Lozère. Alors nous, à ces archives de Lozère basées à Mende, on s'y est rendu ce matin et on a été accueillis par Camille Buzon, qui est la chef du service des archives privées et des conservations. On écoute l'interview préalablement enregistrée là aussi. Camille Buzon, bonjour, merci de nous recevoir ce matin aux archives. Alors pour commencer, on peut peut-être rappeler la période sur laquelle porte ce travail de collecte de mémoire autour du lac de Naussac.
Alors, ça commence à partir des années 70, hein, puisqu'en fait, la construction du barrage est déclarée d'utilité publique en 76, et que 4 ans plus tard, les travaux sont terminés et que la mise en eau commence. Donc, on peut dire début des années 70 jusqu'à le milieu des années 80.
Avec cette construction du barrage de Naussac, c'est plus de 1000 hectares, hein, qui ont été engloutis. Des familles déplacées également, puisque c'est toute une vallée qui a été effacée. Et c'est sur cet aspect-là, hein, qu'Armelle Faure a axé son travail. Et elle a déjà entrepris plusieurs travaux à ce sujet, hein, par le passé.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une ethnologue qui est aguerrie. Hein. Elle a passé une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, justement sur les déplacements de populations induits par, par la construction de grandes infrastructures. Et elle a notamment travaillé pendant une vingtaine d'années pour les Nations Unies, donc en Asie, en Afrique, à Madagascar, pour accompagner ces déplacements de populations. Et en fait, quand elle nous a contactés, elle venait juste de terminer en fait un travail de collecte, donc en partenariat avec les archives du Cantal, de la Corrèze et EDF, donc sur les 5 grands barrages de la Haute-Dordogne, où ils avaient pu rassembler un corpus d'une centaine de témoignages. Et donc son idée, elle, c'était de faire le même travail pour Naussac. Particulièrement intéressant, puisqu'en fait, c'est le Naussac est le dernier chef-lieu de commune en France à avoir été immergé.
Et donc, elle vous a contacté et vous également, vous étiez en train donc, d'entamer un travail dessus.
Oui, tout à fait. Nous, on a fait la rencontre d'un témoin clé voilà, de l'opposition au barrage de Naussac donc en 2020. Donc, nous, on a commencé déjà à travailler avec lui, à faire des enregistrements. On a récupéré beaucoup de photos, des documents, des films d'époque qui sont d'ailleurs actuellement visibles et accessibles sur notre site internet. Et en fait, c'est au moment où nous, on cherchait aussi à étendre notre panel de témoignages qu'on a été contacté par Armel Faure qui, elle, voulait faire cette collecte. Et donc, du coup, on a conclu un partenariat avec elle contre un soutien financier de la part du département. Armel Faure a fait tout le travail d'identification des témoins, de l'enregistrement et a versé tout ce matériel collecté aux archives départementales ainsi que son rapport d'études.
Donc on peut peut-être parler de comment elle a procédé. Donc elle a mené ses entretiens, puisqu'il s'agit d'entretiens enregistrés en 2022. Combien de personnes elle a rencontré ?
Alors elle a rencontré 16 personnes. Enfin, interviewer 16 personnes au final, qui ont été à cette époque-là dans des situations différentes par rapport à cette construction. Donc, il y avait des gens qui étaient employés à la construction du barrage, il y avait des gens qui étaient opposés, des gens qui ont été déplacés aussi, et puis il y a aussi des gens qui avaient à ce moment-là des mandats politiques nationaux, hein, je pense notamment à Monsieur Jacques Blanc, et d'autres qui ont eu des mandats après, hein, comme Jean-Claude Chazal, qui était à ce moment-là professeur d'histoire à Langogne, qui était opposé au barrage et qui sera élu conseiller du canton de Langogne en 79. Donc un panel relativement représentatif des différents témoins et acteurs du barrage en fait.
Et jusqu'à ce jour, aucun travaux n'avait été mené sur cette histoire du lac de Naussac.
Alors des travaux si, mais la collecte de témoignages pas du tout. Voilà. Et nous, c'était, et Armel Faure, on était aussi bien consciente comme nous, c'était vraiment le moment où il fallait le faire, puisque quand même les témoins vieillissent. On est 40 ans plus tard, et donc là, c'était un peu le moment ou jamais, on va dire.
Donc, on peut peut-être maintenant aborder hein, ce qu'il en est ressorti de ces témoignages recueillis. Donc, vous l'avez dit, hein, 40 ans plus tard, et on s'aperçoit notamment que le traumatisme, il est encore vif, hein, voire les tensions sont toujours subsistantes, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup de familles déplacées. Est-ce qu'on sait combien à peu près ?
Alors, on sait pas, on n'a pas le nombre exact, hein, mais on peut estimer qu'il y a entre 150 et 200 personnes qui ont été déplacées. Et à cela, il faut quand même rajouter les gens qui ont été impactés indirectement, hein, qui n'ont pas forcément été déplacés, mais qui ont vécu de manière assez traumatique quand même, la destruction de leur maison familiale.
Ce qui ressort beaucoup hein, de ces témoignages, donc, c'est qu'il y a beaucoup de traumatismes hein, qui persistent, et notamment du fait de la façon dont ça s'est déroulé, en fait, cet engloutissement, où il a fallu reconstruire tout un village, et il y a notamment une histoire de déplacer un cimetière également. Expliquez-nous un peu tout ça.
Oui, donc en fait, les habitants, ça ressort chez tous les témoins, voulaient que le village soit reconstruit à l'identique, pierre par pierre. Et finalement, sous la pression de la Somival, hein, parce qu'il faut bien dire que reconstruire à l'identique, ça avait un coût, la Somival leur a fait comprendre que si c'était ce choix de la reconstruction à l'identique, les maisons ne seraient pas prêtes au moment de la mise en eau du barrage. Et donc, sous cette pression, les habitants ont été un peu contraints et forcés d'accepter que finalement, ça soit une construction complètement neuve qui sorte de terre. Et donc, c'est comme ça qu'on a ces habitations modernes avec des choix architecturaux discutable, hein, puisqu'on a des fenêtres en angle, voilà. Et d'ailleurs, pour les habitants, ils les appellent les corons, les clapiers à lapins, donc ce qui est assez révélateur à mon sens. Alors, il y a quelques éléments architecturaux qui, quand même, ont été déplacés, hein. Je pense notamment à la tour boissée qui a été reconstruite pierre par pierre, et aussi au clocher de l'église qui a été démonté aussi et reconstruit. On va pas dire à l'identique, hein, puisqu'en fait le clocher est posé à même le sol à côté de l'église, ce qui est peut-être un petit peu aussi déroutant, mais c'est surtout ce qui a vraiment marqué et traumatisé les témoins. Il y en a certains même qui ne veulent même pas l'évoquer tellement le traumatisme est encore vivant. C'est surtout la translation du cimetière et la réduction des corps qui s'est faite vraiment dans des conditions vraiment peu respectueuses en fait des morts et même et du coup des vivants. Et même certains témoins ont même parlé de profanation.
Ce projet de barrage, il a donc fait l'objet de fortes contestations et on s'est notamment interrogé sur le bien fondé de cette construction.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément qui apparaît à maintes reprises dans les témoignages. C'est-à-dire que bon, les raisons, elles ont été bien comprises hein, par les habitants, puisqu'on on revient sur donc les trois grands objectifs principaux du barrage. Hein. Donc, c'est le refroidissement des centrales nucléaires de la Loire, l'irrigation de la Limagne et aussi l'alimentation en eau potable de Clermont-Ferrand. Mais en discutant, on voit qu'il y avait aussi des choses peut-être moins avouables, notamment beaucoup évoque le lien de Jacques Chirac, qui était alors tout jeune ministre de l'Agriculture et qui était grand ami du président de la Somival, hein, la société chargée donc de la construction du barrage. Et cette Somival a géré en fait tout le barrage de A à Z, y compris la reconstruction de nos sacs.
Donc les habitants se sont un peu sentis pris en étau, quoi, finalement. Et donc, de fortes oppositions, on l'a dit. Et il y avait notamment de la part de ces groupes de résistance qui se sont montés dans la vallée de Nossac. Ils proposaient d'autres lieux, notamment plus en aval, dans les gorges de l'Allier, pour faire ce barrage. Parce que, en fait, pour eux, c'est ce qui ressort aussi dans les témoignages, cette vallée de Nossac, elle était. Il l'a surnommée le petit Nice de la Lozère. Pourquoi ?
Tout à fait, parce qu'en fait, c'est un ancien bassin d'effondrement, un ancien lac glaciaire. Et donc, en fait, c'était une vallée qui est verrouillée aussi à l'est naturellement. Donc, c'était une vallée qui était quand même très, très fertile et surtout qui était modernisable, mécanisable. Et en plus, avec des conditions climatiques plutôt bonnes pour la Lozère. Et donc, il y a eu aussi une forte opposition par rapport à ça. C'était une vallée qui était habitée. Et c'est vrai que certains groupes d'opposition ont proposé plutôt que le barrage se fasse dans les gorges de l'Allier, qui étaient nettement moins habitées, et surtout sur l'Allier, alors que la plaine de Nossac, elle est juste irriguée par le petit Donoso, qui n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, dès le départ, en fait, le barrage de Nossac avait prévu la dérivation du Chaperoux, qui n'a pas suffi, puisqu'il a fallu construire Nossac 2, qui dérive les eaux de l'Allier. Et on voit encore actuellement qu'il y a encore des problèmes récurrents de remplissage du lac. Et en fait, le choix des gorges de l'Allier a été aussi refusé parce qu'il y avait un coût nettement plus important pour la construction, en fait.
Dans son travail, Armelle Faure, elle appelle à poursuivre cette collecte de mémoire hein, qu'elle a entamée et que vous avez également entamée. De votre côté, aux archives de Lozère, vous avez aussi rassemblé tous les documents qui ont trait à cette histoire et vous en avez fait une espèce de petite exposition. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Oui, alors en fait, en avril dernier, au moment où les Seines Croisées de Lozère lançaient leur saison, ils ont proposé qu'on installe notre exposition sur l'eau à la médiathèque de Langogne, hein, qui est toute nouvelle. Et donc, on a eu l'idée, nous, de valoriser le travail d'Armelle Faure et puis nos archives aussi à nous, papier administratif. Et donc, on a rajouté à cette exposition deux panneaux. L'un retrace en fait la chronologie avec des documents, des archives, des documents qu'on avait collectés. Et le deuxième panneau, en fait, redonne vie au village en Noyer. Hein. Ils sont localisés avec des photos et puis des petits QR codes qui renvoient à notre exposition virtuelle sur nos sites et à des extraits de témoignages qu'a collecté Armelle Faure.
Donc ça, c'est toujours consultable sur votre site en ligne hein.
Ça, c'est toujours consultable sur notre site. Et après, les deux panneaux d'exposition, ils sont visibles en salle de lecture aux archives départementales de la Lozère.
Pour finir, peut-être qu'on pourrait revenir un peu sur l'objectif et l'utilité de cette démarche que vous faites autour de cette histoire de Lacs de Naussac qui est restée longtemps tabou finalement.
Oui, alors c'est vrai qu'on a pu le voir à travers les témoignages et les tensions aussi que ça génère. C'est quand même un élément structurant pour le territoire. Et nous, il nous a quand même semblé important et même vital de collecter cette histoire et cette mémoire, puisque au-delà des sources administratives écrites que nous, on a déjà aux archives, hein, sur le barrage de Naussac, tout ce qui était ressenti des personnes déplacées ou même des acteurs, on ne l'a pas. Et ça faisait cruellement défaut. Et donc, ce qui nous a animé, et ce qui a aussi animé Armel Faure, c'est en fait un double objectif, hein, à la fois humain, hein, libérer la parole des habitants sur des choses qui étaient parfois refoulées, hein, et évidemment un objectif patrimonial, puisque c'est conserver cette mémoire pour les générations futures.
Et une manière aussi, elle le dit dans son rapport, de rétablir un peu une forme de justice. Donc je vais la citer, hein, pour conclure. Donc elle dit: pour celles et ceux qui se considèrent a posteriori comme des grands perdants de l'engloutissement de la vallée, parler pour un enregistrement à destination des archives et de l'avenir permet de dépasser le statut du silence et de la victime. Donc voilà, c'est peut-être aussi une manière de se réapproprier sa propre histoire. Camille Buzon, merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous. Et du coup, j'en profite quand même pour renouveler notre appel à collecte. Hein. S'il y a des gens et des témoins, ou même qui ont des documents, ne pas hésiter à se tourner vers les archives.
Voilà, donc n'hésitez pas. Et on ajoute aussi qu'en plus de tout ce travail donc autour de la mémoire collectée autour du lac de Naussac, les archives vont bientôt mettre en ligne deux conférences de restitution de son travail qu'Armel Faure a tenu en Lozère. Donc voilà, ça devrait prochainement être mis en ligne.